Vous écoutez RTL.
Quand on se promène au bord de l'eau.
Je connaissais pas très bien Jean Gabin. Et alors, il s'était amusé à me taquiner, juste avant de tourner cette scène-là. Il me disait, toi t'es môme, tu sais pas embrasser, évidemment. Il m'a embrassé tellement que, Dieu merci, j'avais du maquillage. Ça a été très charmant, après nous avons ri et j'ai tourné ensuite beaucoup de films avec Jean Gabin.
Je sais.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Découvrir l'histoire du cinéma sous un autre angle, celui des histoires d'amour qui se nouent pendant et après les films, c'est ce que nous propose notre invité, le journaliste Désiré Baudru. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
On va parler de l'histoire de Gabin et de Michel Morgan dans quelques minutes, mais d'abord une question générale. Pourquoi vous passionnez pour ces histoires secrètes du cinéma français? C'est une autre façon de raconter les films?
Vous êtes un vilain curieux, quoi.
Je suis un vilain curieux, sans aucun doute, mais c'est parce que ça fait aussi partie de l'histoire du cinéma. Il faut pas s'illusionner. Comment se construit un film? Ça se construit pas uniquement, on n'est pas au pays des bisounours. Il y a des critères qui rentrent en jeu, critères financiers, critères de popularité, critères de disponibilité, mais aussi des critères, entre guillemets, sexuels.
Et de séduction.
C'est-à-dire qu'il y a eu des castings faits sur des séductions, il y a eu des tournages qui ont plus ou moins bien tourné en raison de liaisons amoureuses pendant le tournage. Ça fait partie de l'histoire du cinéma.
Ça veut dire que s'il y a des tensions érotiques entre deux comédiens à l'image, enfin qui ne sont pas des tensions feintes, hein, ça peut rendre un film encore plus brillant et mythique?
Tout à fait, ça peut le rendre mythique, ça peut aussi le rendre catastrophique, parce que quelquefois les relations...
Ils s'aiment plus.
Ou quelquefois ils s'aiment, si vous voulez, l'acteur et l'actrice s'aiment aux dépens du metteur en scène qui a plus son mot à dire, parce que c'est eux qui gèrent le film. Y a tout ça qui rentre en compte dans un film, et donc, en tant qu'historien du cinéma, si vous voulez, je m'intéresse aussi à cet aspect de l'histoire du cinéma dont on ne parle jamais en France, alors que les Américains en font des tonnes et des tonnes de bouquins. Ici, en France, non, c'est tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
Alors, ces histoires, voilà, Désiré Baudru, vous les racontez dans Sexus Cinematographicus, les amours secrètes du cinéma français, publié aux éditions Nouveau Monde. Et dans ce livre, on découvre des séducteurs pas forcément attendus, le fameux Jean Gabin, qu'on écoutait dans la mise en onde tout à l'heure. Il s'est marié en mars 49, avec qui?
Alors il s'est marié plusieurs fois, mais il y a eu son grand mariage, si vous voulez, qui a été le dernier. C'est assez symptomatique chez Jean Gabin, qui était un grand séducteur. Ce qu'on appelle les grands séducteurs, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour séduire. Mmh. C'est ça qui est magnifique.
C'est facile.
C'est assez facile pour lui. C'était, comme il disait, c'est mes chats, c'est-à-dire ses yeux bleus. Et quand il arrivait devant les femmes, il les regardait avec ses yeux bleus, sa voix, elle tombait comme des mouches. On n'a pas fait le compte exact, malheureusement. Je ne sais même pas si lui l'avait fait. Mais ce qui est très intéressant dans la carrière de Gabin, c'est que le jour où il s'est marié et où il a eu des enfants, il s'est arrêté définitivement et ça a été vraiment prouvé. Je veux dire, il n'y a aucune aventure. Il a dit, je suis fidèle à ma famille, j'ai une famille dorénavant. Il a même demandé qu'on arrête les scènes de séduction à l'écran.
Mais vraiment, ça a été tenu, ça?
Ah oui, ça a été tenu. Non, ça, c'est, vous savez, Gabin, il avait quand même son caractère, il tenait parole et il aurait pu encore avoir eu des aventures, parce qu'il y a des femmes qui étaient encore subjuguées par Gabin sur des tournages. Il était d'une fidélité exemplaire. Et c'est un bel exemple, je trouve, d'une belle histoire d'amour, d'un séducteur qui se range des voitures, comme il le disait lui-même, et qui se consacre à sa famille.
Bon, mais avant, dans les voitures ou sur les plateaux de cinéma, il y a eu beaucoup de séduction grâce à Gabin qui n'avait pas besoin de faire grand-chose, c'est ce que vous nous expliquez, notamment avec Marlène Dietrich. Comment il l'a surnommée, Marlène Dietrich?
Il l'appelait plusieurs fois, mais son surnom, c'était l'Autrichienne. Il l'appelait l'Autrichienne, c'était pas très aimable. Il y a eu Marlène Dietrich, bien sûr, qui était une de ses grandes enquête, et on a répété que Marlène Dietrich est restée jusqu'à la fin de sa vie amoureuse de Jean Gabin.
C'était un couple éruptif,
c'était un couple volcanique. Je veux dire, ça faisait beaucoup de dégâts. Finalement, ils se sont séparés officiellement pour une histoire d'enfant que l'un voulait et que l'autre ne voulait pas. Ça a été un drame dans la vie de Marlène Dietrich, c'est sûr, Jean Gabin probablement aussi, mais c'est une parmi d'autres, si vous voulez. Il y en a eu d'autres avant, il y en a eu quelques-unes après. Mais Marlène Dietrich, c'était un couple un peu mythique qui aurait pu peut-être durer. Le problème, et là aussi, on est pile dans l'exemple du cinéma, c'est que ce couple décide de faire un film ensemble et c'est une catastrophe. Et c'est pour moi l'exemple type que c'est pas parce qu'on est un couple de bons comédiens qu'on fait forcément un bon film. Et ça, ils n'y ont pas échappé à cette règle.
Autre idylle, Jean Gabin, Michel Morgan, leur histoire a commencé sur le tournage de Quai des Brumes.
T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi.
Quel beau dialogue, c'est pas facile à le refaire dans la vraie vie.
Résister, hein, non, quand, on peut pas quand Gabin dit à vos yeux, tu sais.
Et leur histoire d'amour, elle se noue sur ce tournage qui est des brumes à la suite de cette phrase.
Oui, elle s'est nouée vraiment plus ou moins à la suite de cette phrase. Enfin, on sentait qu'il y avait quelque chose.
Ça marche alors.
Oui, ça marche. Essayez, faites tas de beaux yeux, tu sais, ça marche peut-être, mais bon, pas à tous les coups.
Non, parce que là, c'était la première fois.
Oui, je crois.
Et puis elle avait vraiment des beaux yeux, quoi. Voilà.
C'est vrai qu'elle avait. Et lui avait une superbe voix. Ouais. Et non, ça a été une véritable idylle qui a été un peu secrète au début.
Oui, parce qu'on entendait, pardon, je vous interromps. On entendait Michel Morgan dans la mise en onde d'André Facetta tout à l'heure, lors d'une interview, oui. Elle parle d'un tournage, elle ne parle pas d'une histoire d'amour. Hein.
Mais c'est vrai qu'à cette époque, on ne parlait pas des histoires d'amour. Oui. On les a appris souvent très tardivement, parce qu'ils en ont parlé, parce qu'ils s'en sont souvenus, parce qu'après, il y avait, j'allais dire, un peu prescription. Mais sur un tournage, à l'époque, tout était nickel, il n'y avait pas d'histoire d'amour, alors qu'il y a eu effectivement une histoire d'amour. Michel Morgan le raconte dans ses mémoires. Elle l'a déclaré tout à fait officiellement. Il y a une véritable histoire d'amour qui a assez duré, d'ailleurs. Ils se sont trouvés dans plusieurs films. Et puis après, il y a eu le départ de Jean Gabin pour l'Amérique au moment de la guerre, et à ce moment-là leur histoire a cessé, mais c'était une belle histoire d'amour que je crois authentique. Elles sont pas toujours authentiques dans l'histoire du cinéma, mais celle-là est authentique.
Alors puisqu'on parle de cinéma, de sexe à pile, forcément il y a un nom, une comédienne, une actrice qui nous vient en tête tout de suite, c'est Brigitte Bardot. Mais est-ce qu'elle a eu beaucoup d'aventures, Brigitte Bardot? Réponse tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés.
Coquillages et crustacés, et sexe et cinéma français aussi, c'est le thème de notre curiosité et du livre de notre invité, le journaliste Désiré Baudru. Les amours de Brigitte Bardot, notre sexe symbole national, on l'imagine avec beaucoup d'amants. Vrai ou faux?
Officiellement, elle en revendique 17.
C'est pas tant.
Je sais pas, j'ai pas de statistiques précises.
Non, mais on compare avec ses propres histoires.
Ça, c'est vous qui le dites, chacun son truc. Mais
c'est pas tant.
Vous êtes au-dessus de la moyenne nationale.
C'est ça.
Je pense que la moyenne nationale pour les femmes, c'est autour de 5. Hein.
C'est vrai?
Ouais, c'est très peu. C'est très peu.
Ah oui, mais dans quel pays?
En France, je vous assure. Moi, j'étais très surpris
d'une quarantenaire, par exemple.
Pas en une seule fois.
Non, on vit dans un autre monde. Donc, Brigitte Bardot, 17 ou 18, c'est ça?
17 ou 18.
Vous n'êtes pas d'accord sur le chiffre?
Non, elle est 17, j'en ai relevé 18.
Ah, c'est drôle, ça. Il y en a un qu'elle renie, en fait.
Oui, il y en a un qu'elle a dû oublier dans l'eau où il ne l'a pas marqué.
Mais donc, on imagine qu'elle a dû souvent dire non, parce que, voilà, Brigitte Bardot, elle a dû se faire être draguée. Tentatives de séduction, il y en a eu sans doute à tous ces films et par tous les hommes qu'elle croise.
Sans aucun doute, oui. Ça c'est, elle a sûrement dû dire souvent non. Ce qui est intéressant dans le cas de Brigitte Bardot, c'est qu'elle, dès son époque, a revendiqué sa liberté sexuelle et qu'elle avouait ses amants. Elle ne les cachait pas, elle les avouait.
Elle les affichait,
exactement. Alors que c'était encore, on est quand même dans les années 60, au début, après 70, c'était quand même il y a eu mai 68 entre deux, mais c'était quand même un peu tabou comme sujet. Elle, et c'est ça aussi qui a fait sa gloire et son succès, c'est qu'elle affichait sa liberté sexuelle totale, pleine et entière. C'était non seulement une mangeuse d'hommes, mais c'était une femme qui pouvait changer d'homme selon ses envies et ses humeurs.
Une femme libre.
Une femme totalement libre. Mmh. Et ça a été très 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 surprenant dans le cadre du cinéma français de cette époque, et même du cinéma mondial, parce qu'il faut se souvenir que Brigitte Bardot était une star mondiale.
Et donc vous dites que cette liberté, cette façon d'assumer sa sexualité, ça créer sa légende aussi.
Tout à fait. Ça fait beaucoup partie de sa légende. Soyons très honnêtes, Brigitte Bardot, sexe symbole, oui, actrice, un petit peu moins, mais...
Ça dépend des films.
Ça dépend des films, enfin bon. Et j'allais dire, personnalité totalement libérée, ça a été le fer de lance de sa popularité, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Ouais.
Alors parmi les 17 ou 18, il y en a un, c'est sûr, elle ne l'a pas oublié, c'est Roger Vadim.
Oui, bien sûr.
À quel âge l'a-t-elle épousé, et quel rôle Vadim a joué auprès d'elle?
Alors, si vous voulez, on a toujours dit que Roger Vadim a été son Pygmalion, ouais. Donc il la rencontre, je crois, elle avait une quinzaine d'années, elle était danseuse, il en tombe fou amoureux, lui était assistant metteur en scène, en rêvant de mettre en scène, et il voit dans Brigitte Bardot, il voit la future actrice qu'elle peut être. Mmh. Et là, vraiment, lui, ça a été un visionnaire, il a senti que sa liberté, qui était déjà quand elle était jeune, son sens de parler tout à fait librement, de se comporter librement, il a dit qu'il avait matière de faire un film, et ce film, ça a été Dieu créa la femme, qui a été une révolution quand même à son époque, incroyable. Et ça, non seulement c'était une révolution cinématographique, mais c'était la confirmation de la liberté sexuelle de Brigitte Bardot, parce que dans ce film, elle quitte Roger Vadim, qui est donc son mari à ce moment-là, pour partir avec Jean-Louis Trintignant, qui est son partenaire. Et donc, si vous voulez, il y a le film lui-même, et il y a l'histoire derrière le film, qui est Brigitte Bardot affiche là aussi sa liberté sexuelle.
Et parmi les autres amours de Brigitte Bardot, il y a Serge Gainsbourg, il lui écrira cette chanson.
Je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime. Mon amour.
Désiré Baudru, à l'époque, Brigitte Bardot est mariée.
Oui.
Avec un milliardaire, un millionnaire, c'est ça?
Oui, elle a eu Gunther Sachs, si j'arrive à bien prononcer, qui était un milliardaire. Oui, elle s'est mariée souvent. Elle a eu des amants aussi en étant mariée. Mais ça faisait partie de son caractère et de sa vie.
Mais l'idylle
ça
avec
scandale à ce moment-là.
Ah oui, l'idylle avec Serge Gainsbourg, elle chantait cette chanson au début.
Oui.
Avec lui. Et puis finalement, elle a demandé à ce que le morceau ne soit pas diffusé avec sa voix. Ça,
oui. Voilà, tout à fait. Il y a eu une espèce de micmac avec Serge Gainsbourg. Donc elle a préféré se retirait de ce duo et de ces chansons.
Son mari était jaloux, Gunther Sachs, il n'a pas supporté cette idylle naissante avec Serge Gainsbourg.
Déjà son mari était jaloux, bon, enfin, quand on a Brigitte Bardot avec soi, soit on est jaloux, soit on la garde avec soi, mais c'est impossible de garder Brigitte Bardot, donc je veux dire, à un moment, il faut avoir les yeux ouverts, et Brigitte Bardot était totalement indomptable, c'était un magnifique cheval fou et qui allait où elle voulait. Et donc, je pense que ceux qui l'ont épousé s'en sont très vite rendus compte.
Sexus Cinematographicus, c'est le titre de votre livre publié aux éditions Nouveau Monde. Je découvre que Brigitte Bardot a une liaison avec Alain Bougrain-Dubourg.
Oui.
Alors ça,
oui.
Je suis un peu tombé de la chaise. C'est l'écologie, enfin la passion des animaux plutôt qui les a réunis, c'est
oui,
ça?
Oui, la passion des petites bêtes sans doute. En tout cas là, on est un peu hors cinéma, mais c'est vrai que oui. j'étais un peu surpris aussi de cela. Ils ne s'en cachent ni l'un ni l'autre, mais je pense que ce sont les animaux qui les ont réunis, tout à fait.
Et aussi Warren Beatty, on pourrait faire un chapitre entier sur Warren Beatty, hein, grand séducteur américain. Comment allait-elle retrouver Warren Beatty, dans quelles conditions?
Bah Warren Beatty, alors là, c'est toute une légende du cinéma américain. On lui attribue plus de 1000 conquêtes purement cinématographiques. Donc, il faut retrouver les 1000 actrices. Et donc, oui, elle était subjuguée par Warren Beatty. Elle allait le retrouver dans Hollywood. Elle faisait des allers-retours dans des hôtels où elle n'était pas censée être et où lui traînait, enfin, venait la retrouver. C'est des belles histoires, d'amour, de faire des milliers de kilomètres, de se cacher, de se retrouver à l'hôtel. Ça peut paraître sordide, mais finalement, ça a un beau côté romantique, contrairement à ce qu'on croit. Et Brigitte Bardot était aussi romantique, mais Warren Beatty était peut-être un peu moins.
Le cinéma qui nous a aussi offert quelques couples surprenants, Louis de Funès et Macha Béranger, Benoît Poulvorde et Chiara Mastroianni, Claude Lelouch et Annie Girardot. On vous raconte leur histoire tout de suite dans la curiosité sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Louis de Funès a entretenu une liaison secrète avec la voix des nuits de France Inter, Macha Béranger.
Mais donc pas de familiarité, pas de familiarité.
L'acteur est alors marié à Jeanne depuis 1943. Il a deux fils et tient à sa famille. Il ne divorcera pas, Macha le sait.
C'est mon chauffeur, il m'a reconnu, qu'est-ce que je vais faire?
Seule la mort de l'acteur en 1983 mettra fin à leur passion secrète, entretenue pendant plus de 10 années.
Jusqu'à 22h.
C'est fantomas.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité, c'est un vilain défaut jusqu'à 22h sur RTL. Et l'émission porte particulièrement bien son nom ce soir, puisqu'on se passionne pour les amours secrètes du cinéma français avec le journaliste Désiré Baudru. On entendait dans la mise en onde de notre réalisateur l'histoire Louis de Funès, Macha Béranger. Alors, ce sont des amours discrètes plus que secrètes, est-ce qu'on peut dire ça?
Ah, c'était plus que discret, c'était totalement secret. C'était à la fois secret, oui et non, puisque dès que vous rentriez, parce que j'ai travaillé dans cette station de radio qui n'est pas la vôtre à une certaine époque.
Dans la Maison Ronde à Radio
France.
Dans
la Maison Ronde, hein, voilà. Ouais. Dès que vous rentriez, vous étiez au courant de l'histoire.
Ah bon, donc c'était pas si secret.
Non, ça n'était pas tellement. Moi, ça m'a surpris quand on me l'avait annoncé. Mm-hmm. Et c'est une histoire, oui, tout à fait authentique, de Louis de Funès et Macha Béranger.
Qui se rencontrent comment?
Qui se rencontrent en fait par la radio, puisque Louis de Funès est subjugué par par la voix de Macha Béranger, comme des millions d'auditeurs à l'époque. Et un jour, il prend le culot de l'appeler, il a envie de lui il en parle. Enfin bon, comme apparemment Louis de Funès était un peu insomniaque, il écoutait souvent, il avait envie de parler avec elle. Ils ont parlé beaucoup.
pendant de longues années.
Pendant de longues années, et peut-être pas seulement la radio. Donc.
Ils avaient pas mal de différences d'âge, hein. Ils avaient 25-27 ans.
Oui, ils avaient une différence d'âge. C'est vrai que ça paraît tout à fait étonnant d'imaginer Louis de Funès transi d'amour pour Macha Béranger. Enfin, étonnant, surprenant. Enfin, c'est pas incongru. Mais en tout cas, c'était vrai. Macha Béranger a fini par l'avouer. Louis de Funès n'en a jamais parlé. Mais Macha Béranger l'a dit.
Sa femme, à Louis de Funès, a fini par l'apprendre.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Bah, oui, ces genres de secrets, quand ça dure trop longtemps, c'est forcément éventé. Et là, ça s'est su.
Autre couple étonnant, celui qu'ont formé Chiara Mastroianni et Benoît Poulvorde, c'était à quelle époque, Désiré Baudru ?
Alors là, c'était sur un tournage, je ne sais plus le titre du film, vous me posez une colle, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas duré très longtemps et que c'est Benoît Poulvorde qui l'a annoncé. C'est ça qui est intéressant quand on fait des recherches, c'est qu'on croit que c'est secret, toutes ces choses-là, que personne n'en parle, et puis tout d'un coup, vous avez l'un des intéressés qui balance l'info.
Genre qu'il s'en est vanté ou il a annoncé quoi ? C'est fini ? Ah, on ne savait pas que ça avait commencé.
Oui, c'est un peu ça. Souvent, ils disent, bah oui, j'étais à l'époque avec un tel ou une telle, et on ne se rend pas compte, c'est que c'est eux-mêmes souvent qui balancent l'information. C'est peut-être pas forcément à la peine d'aller chercher des ragots dans la presse People et tout ça, c'est qu'eux-mêmes, quand on regarde, quand on lit des autobiographies, quand on lit des interviews, c'est bourré d'informations comme ça. C'est qu'ils balancent à un moment ou à un autre avec qui ils ont été, pourquoi ça s'est terminé, comment ça a commencé, et c'est très étonnant.
Benoît Poulvorde, qui est un acteur génial et tourmenté, est-ce que Chiara Mastroianni l'a aidé, l'a apaisé au sortir de telle ou telle période de sa vie ?
Ben ça, il faut leur demander, parce que je ne sais pas quelles ont été vraiment leurs relations, mais je ne pense pas qu'on puisse calmer Benoît Poulvorde. je l'ai assez côtoyé à une certaine époque. C'est un électron libre, mais un peu totalement incontrôlable. J'espère qu'il s'est calmé maintenant, mais ça faisait aussi partie de son talent. C'est des talents incroyables, mais qui explosent, mais qui explosent même au quotidien.
Ils ont tourné ensemble, souvent
Je crois qu'ils ont tourné un film ou deux, pas plus, mais qui n'ont pas marqué ni ma mémoire, ni celle des spectateurs. Donc
il y a un autre couple qui s'est formé sur un plateau de cinéma et vous nous racontez ça dans votre livre. Claude Lelouch et Annie Girardot, c'était sur quel film, vous vous souvenez ?
Un homme qui me plaît. Ils s'étaient déjà vus sur Vivre pour vivre, ils se sont retrouvés sur Un homme qui me plaît. Et non, c'était une belle histoire d'amour. Alors ce qu'il faut dire, bon, on parle de Claude Lelouch. Claude Lelouch était amoureux pratiquement de toutes ses actrices, mais véritablement amoureux. C'était pas seulement des conquêtes sexuelles. Il avait une passion pour ses actrices.
D'ailleurs, on dit souvent que quand un réalisateur est amoureux de l'actrice principale, il la rend belle à l'écran, il la filme particulièrement bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ?
C'est ce qu'on dit et c'est souvent prouvé. Mais le problème, c'est souvent au détriment des autres actrices du film, qui elles se retrouvent un peu moches, mais enfin qui sont un peu délaissées.
Moins bien mises en lumière.
Voilà, moins bien mises en lumière, on va dire.
Mais se rencontrent Annie Girardot et Claude Lelouch. Ils sont mariés l'un et l'autre ?
Alors, Claude Lelouch a souvent été marié, je crois qu'il était marié toute sa vie, donc il était forcément à un moment ou un autre. Et non, ce qui est intéressant dans leur liaison, c'était une liaison épisode, si vous voulez, c'est qu'ils se sont séparés, ils se retrouvaient régulièrement. Enfin, il y avait une passion continue l'un vis-à-vis de l'autre, tout en sachant l'un et l'autre, puisqu'ils étaient casés ou mariés, que ça ne pouvait pas se figer dans le temps et être une liaison tout à fait officielle. Mais c'est une histoire d'amour à rebondissement et c'est assez rare dans le cinéma, parce que souvent, quand ça s'arrête, on pense à autre chose. Et là, Lelouch-Girardot, c'était une très longue histoire d'amour.
Claude Lelouch, qui a eu 7 enfants de 5 femmes différentes. Oui, oui. Il s'est un peu assagi, là, le séducteur, avec, en avançant la sagesse, on va dire ça comme ça.
Il s'est peut-être assagi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un des films de Claude Lelouch, dont le titre là aussi m'échappe, où il a réussi l'exploit de mettre à la fois dans le film, donc il y a 3 actrices, il y a sa femme, sa maîtresse et sa future maîtresse. Dans le même film. Et je trouve ça assez culotté quand même. Et là, il faut tirer un coup de chapeau à Claude Lelouch d'avoir réussi cet exploit.
Elle est pas mal, votre expression.
Ouais, autre anecdote.
Tirons le coup de chapeau.
Sur le tournage d'un Lelouch, c'est le film L'Aventure, c'est l'aventure. Et là, ça va nous amener à parler de Lino Ventura. Alors c'est marrant parce que Lino Ventura, c'est un peu comme Gabin. il y a une période de sa vie où il refusait les scènes de séduction dans les films, c'est ça ?
Alors, si vous voulez, Lino Ventura, c'est le père de la pudeur du cinéma français. C'est-à-dire ouais. qu'il refusait les scènes de séduction, il refusait d'embrasser une femme à l'écran, il avait des principes rigides auxquels tout le monde a cru pendant des décennies et des décennies. Et on se rend compte, en fouillant un peu, et vraiment pas en fouillant beaucoup, qu'il a effectivement eu des liaisons. Une liaison sur le tournage de L'Aventure, c'est l'aventure, où beaucoup de monde a eu des liaisons sur ce tournage. Il faut quand même se souvenir que Jacques Brel a quand même trouvé son Maddy sur ce tournage. Donc, lui aussi a fait une conquête sur le tournage de L'Aventure, c'est l'aventure, Lino Ventura. Et quelques temps après, il a une longue liaison de 10 ans avec une attachée de presse belge, qui ne s'en cache d'ailleurs absolument pas. Et ça casse un peu le mythe du père de la pudeur qu'il a voulu nous
Mais
imposer.
Mais c'était pas au début de sa carrière qu'il était père de la pudeur, surtout ?
Non, il a été jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il a toujours...
Et ça a toujours été dans son contrat de...
Ça, oui, ça a toujours été dans son contrat. Quand il embrasse Angie Dickinson dans Un homme en colère, toute la publicité était marquée là-dessus. Lino Ventura embrasse une femme comme si c'était un exploit mondial. Voilà, il embrasse une femme, c'est ni le premier acteur ni le dernier.
Ouais. Et il refusait effectivement les scènes de séduction. On a aussi de belles histoires d'amour.
Par contre, il a accepté de tuer.
Ça y est, voilà.
Ouais. Oui.
Avec un bon silencieux, ça marche toujours. Belles histoires d'amour à vous raconter, elle m'a surpris celle-là. Celle qui dure comme Annie Dupéret et Bernard Giraudot.
Vous êtes bien vivant, Thomas.
Juste après la pause sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Pour faire un bon film, il faut un producteur, un réalisateur, des comédiennes, des acteurs.
N'en faites pas trop.
Et tout ce petit monde est perpétuellement dans l'art de la séduction. Il y a donc beaucoup d'histoires d'amour et de sexe à raconter. C'est ce que nous propose notre invité, le journaliste Désiré Baudru. Alors on va parler un peu des couples légitimes, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans l'histoire du cinéma français. Par exemple, Evelyne Bouix et Pierre Arditi se sont mariés en mai 2010. Pour célébrer combien d'années de vie commune ?
25 ans de vie commune. Donc ils se sont rendus compte qu'ils étaient ensemble depuis 25 ans. Ils se sont dit qu'il serait peut-être temps de se marier. Et ils l'ont fait. Non, c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire d'amour. Il y a des belles histoires d'amour dans le cinéma français. C'est vrai que le livre s'appelle Sexus. Mais Sexus, ça veut dire aussi deux sexes différents, quelquefois deux fois le même. Mais je veux dire qu'il y a des belles histoires d'amour qui se sont créées au cinéma et qui ont duré très longtemps. Et celle d'Evelyne Bouix et Pierre Arditi est effectivement un exemple assez rare.
Un couple qui tient, même au cinéma, voilà leur secret de longévité. Écoutez bien.
La bonne géopolitique du couple, c'est de continuer de se donner des rendez-vous pour se retrouver, pas d'avoir d'obligation, d'avoir des territoires marqués chacun, mais dans lesquels l'autre est toujours le bienvenu, s'il s'annonce et s'il prévient qu'à un moment donné, il vient et s'il ne dérange pas.
C'est horrible la manière dont on parle. On dirait vraiment, attention, je peux venir chez toi.
Non,
c'est pas du tout comme ça. Au début, c'est plus difficile d'aimer un acteur parce que on a les mêmes préoccupations, les mêmes. Donc, quand on s'apprivoise et qu'on se connaît bien, c'est divin. Mais il y a un temps d'adaptation, enfin, en ce qui me concerne.
Pas si facile finalement de vivre en couple de comédiens. C'était un extrait d'une émission de Paris Première, Paris Dernière. Il y a un autre couple dont je voulais parler parce que moi, j'ai une tendresse particulière pour eux. C'est Annie Dupéret et Bernard Giraudot. Alors, eux, ils n'ont pas forcément beaucoup travaillé ensemble, c'est ça ?
Non, ils n'ont pas beaucoup travaillé ensemble, ce qui est d'ailleurs tout à leur honneur, parce que souvent les couples ont tendance, et c'est un défaut, à travailler ensemble, et ça ne sert pas forcément le film, ce que je disais tout à l'heure. C'était un très très beau couple, Annie Dupéret et Bernard Giraudot, un couple qui s'est un peu exilé, parce qu'ils ont vécu longtemps en Ardèche, où ils étaient loin de la vie parisienne, ils vivaient leur amour tout à fait paisiblement.
Ils fuyaient les mondanités.
Ils fuyaient les mondanités. Et ça a été un des couples, c'est vrai que quand on parle de couple mythique du cinéma, celui-ci, on a un peu tendance à l'oublier. Pourtant, il est bien présent. C'est un très, très beau couple. Et effectivement, cinématographiquement, ça n'a pas marqué le cinéma parce qu'ils ont peu travaillé ensemble. Mais là aussi, on est dans les belles histoires d'amour du cinéma français.
Que disait... Ils se sont séparés, je crois, au bout d'une vingtaine d'années. Que disait Annie Dupéret pour expliquer ça ?
Je crois qu'elle parlait surtout de lassitude et d'un comportement un peu... C'est vrai que Bernard Giraudot était quand même resté un peu un sauvage.
Pas très doué pour le bonheur.
Oui, il n'était pas très doué pour le bonheur. Il avait probablement ses propres démons et ses propres angoisses, et il était un peu solitaire, un peu renfermé. Et pourtant, quel acteur extraordinaire
qui manque au cinéma,
qu'on a un peu oublié, qui lui-même a pas forcément fait la carrière. Il a fait la carrière qu'il souhaitait, ça c'est une évidence. Est-ce qu'il aurait fait la carrière qu'il aurait mérité, qu'on aurait pu espérer pour lui, c'est une autre chose. Mais c'était un très 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 beau couple.
Il y a un nom d'acteur américain qui revient souvent dans votre livre et dont on a parlé il y a quelques instants déjà dans Sexus Cinematographicus, qui est publié aux éditions Nouveau Monde. On lit ce nom souvent, Warren Beatty. C'était un grand séducteur d'actrices françaises.
Ah bah il est tout. Bah, lui, il y avait
comme
pas
il y en a eu mille, voilà, forcément quelques Français.
Oui, je crois qu'il s'arrêtait pas aux nationalités. Lui, à partir du moment où la demoiselle était plutôt séduisante, il attaquait bien en tête.
Isabella Adjani, par exemple.
Oui, Isabella Adjani, entre autres, oui, bien sûr.
Comment ils se rencontrent, vous savez?
Isabella Adjani, en fait, il veut absolument tourner avec elle. Il la courtise longtemps et longuement. Et par malheur pour les spectateurs, ils font un film qui s'appelle Ishtar, avec Warren Beatty, Isabella Adjani, Dustin Hoffman, et là on se dit, en voyant le film, ils auraient pu contenter de faire ça dans leur chambre et pas nous infliger un film.
Ils vont s'aimer où, en France ou aux États-Unis?
Aux États-Unis. Elle le rejoint aux États-Unis, où Isabella Adjani vit une vie assez tout à fait ce qu'elle ne souhaite pas, c'est-à-dire la vie californienne avec des espèces de mondanité, ce qu'on appelle des parties où elle s'ennuie. Ouais. Parties, je viens de dire, c'est des soirées. Hein. Ouais. Ne rêvons pas. donc elle va dans des soirées où elle s'ennuie mortellement. Elle fréquente des gens de cinéma qui n'ont rien à lui dire parce que c'est pas son cinéma à elle. Mmh. Ça a été une histoire d'amour, mais il y en a une qui s'est plus ennuyée que l'autre quand même.
Elle n'était pas fine. C'est parti. Isabella Adjani, qui dans sa jeunesse a été amoureuse d'un certain André Dusselier.
Oui.
Je connaissais pas cette histoire.
Moi. Alors ça, c'est André Dusselier qui l'a avoué là encore. C'est assez marrant.
Il l'a avoué sous la torture. Hein.
Non.
C'était à quelle époque?
C'était au moment où ils étaient en conservatoire ensemble. Oui. Ils étaient tout jeunes, tout minots. Et tout d'un coup, André Dusselier a dit ça il y a quelque temps. C'est très récent comme information, et ça, moi ça m'amuse beaucoup de voir que tout d'un coup un acteur vous balance 30 ou 40 ans après, vous savez, j'ai vécu une liaison avec Isabella Adjani. À la limite on lui demande pas, mais il le dit, donc c'est gentil pour nous historiens d'avoir cette information.
Grande histoire d'amour entre les deux.
Grande, je sais pas, histoire d'amour qui oui, enfin ils ont vraiment formé un couple, ça a pas duré très très longtemps, et c'est assez amusant de les imaginer tous les deux débutants se tenant main dans la main et rêvant peut-être à une carrière sans imaginer les carrières qu'ils allaient faire.
Ils ont eu l'un et l'autre de belles carrières. Isabella Adjani, dans ces années-là, elle a une vingtaine d'années. Juste après cette liaison avec André Dusselier, elle aurait pu partir très loin, en Polynésie. Pourquoi?
Non, Isabella Adjani a toujours eu souvent eu des amours, j'allais dire, étrangères et étranges.
Là, c'est Marlon Brando, c'est ça?
Il y a Marlon Brando qui lui court après. Alors, Marlon Brando aussi, c'était quelqu'un d'assez chaud, Marlon Brando. Oui. Hein. Là, on peut dire qu'il tirait sur tout ce qui bouge, même ce qui ne bougeait pas d'ailleurs. Marlon Brando a des visées sur Isabella Adjani. Il souhaite l'inviter sur son île, donc polynésienne. Et elle refuse. Et elle ne va pas au rendez-vous. Elle loupe peut-être un début de carrière qui aurait été très différent. Mais en tout cas, elle a fait sa carrière. Mais ça ne l'a pas empêché par la suite de rencontrer d'autres acteurs américains et de vivre avec eux des aventures.
De très belles histoires. Merci beaucoup, Désiré Baudru. Sexus Cinematographicus, les amours secrètes du cinéma français. C'est à lire aux éditions Nouveau Monde.
Vous écoutez RTL.